Géopolitique, Marie-France Chatin.
Géopolitique, regard sur l'Égypte. Nous retrouvons nos invités, Jean Marcoux, directeur des relations internationales de Sciences Po Grenoble, Toufik Akimandos, chercheur associé à la chaire d'histoire contemporaine du monde arabe au Collège de France, et Alain Grèche, journaliste au Monde Diplomatique, spécialiste du Proche-Orient. Toufik Akimandos, on a terminé la première partie de l'émission sur le bilan en termes politiques, un an après la destitution de Mohamed Morsi. Jean Marcoux soulignait la mise en cause des libertés et la rigidification du pouvoir.
Alors, j'ai essayé de mettre en ordre pendant la pause ce que j'avais dit. Je dirais trois choses, mais il y en a 2000, quoi. D'une part, il est exact que mais je suis pas sûr que ce soit la faute du maréchal, que d'une part la justice égyptienne et d'autre part la police sont dans une perspective de revanche. Ils ont été fortement malmenés par les frères musulmans et par les jeunes révolutionnaires, et qu'ils ont des comptes à régler qui ne se gênent pas. Je ne veux pas aussi faire du maréchal Sissi un ange impuissant. Sur des dossiers, ça l'arrange, sur d'autres, ça ne l'arrange pas. Mais il faut voir qu'ils ne contrôlent pas complètement l'appareil d'État égyptien, malgré l'écrasante la légitimité évidente qu'il a en Égypte. D'autre part, il y a à voir quand même que le contexte est celui d'une guerre contre des organisations terroristes. C'est-à-dire, il y a depuis la chute de M. Morsi, et ça a été aggravé par le massacre de Rabat, mais il y a des morts depuis la chute de Morsi. Tous les jours, il y a un ou deux morts dans les services de la police et dans l'armée, et surtout en ce qui concerne les militaires, les pertes ne sont pas toujours annoncées. Nous parlions à des officiers démocrates, des officiers de police démocrates, qui voulaient réformer le ministère de l'Intérieur. Maintenant, il est impossible de leur parler. Ils ne veulent pas. Il y a des morts dans leur corporation. Donc il y a un raidissement, comme il y a un raidissement aussi dans les morts font que chaque parti se raidit. Pour prendre Ahmed Meir, pour donner juste un exemple aussi, moi je suis contre la loi sur les manifestations, sauf que les manifestations en Égypte sont rarement pacifiques. Des deux côtés, c'est-à-dire la police ne sait pas gérer une manifestation pacifique, alors ne lui demandez pas de gérer des manifestations violentes, les manifestations sont violentes. Ahmed Meir, quand il a été convoqué par le juge d'instruction, je ne sais pas si le juge d'instruction avait de toute façon l'intention de l'arrêter ou pas, la convocation n'était pas amicale, mais ses partisans ont passé à tabac les flics qui étaient devant la justice. Dans tout pays au monde, vous passez à tabac des flics, vous êtes arrêté. Il y a aussi à mettre un contexte, les choses en contexte. Après, on pourrait parler de l'arsenal législatif égyptien, mais je regrette, la presse égyptienne est très critique vis-à-vis des Sisi. Et Gezira, je pense que ces journalistes sont des boucs émissaires innocents, et c'est jamais bien, histoire de boucs émissaires innocents, mais dans tout pays, la politique de couverture, ou plutôt de mensonge de la chaîne Gezira, aurait été sanctionnée plutôt par des amendes très lourdes que par des peines de prison. Mais je peux vous raconter, moi, Gezira annonce régulièrement des manifestations dans la rue où je vis, je sais s'il y en a ou il n'y en a pas, il n'y en a pas en général.
Pour aller plus loin, Alain Grèche, en Égypte, il y a eu une révolution. Les frères musulmans ont été au pouvoir pendant un an. Mohamed Morsi a été destitué donc en juillet 2013. L'armée a repris le pouvoir. On a quand même l'impression d'un énorme retour en arrière.
Oui, tout à fait. Moi, je pense qu'il y a un retour en arrière, même si je pense qu'il ne va pas réussir. Parce que, justement, il y a eu la révolution de janvier 2011 et que je ne pense pas que les Égyptiens accepteront ça sur le moyen terme. Enfin, on ne peut pas nier, enfin, je suis un peu étonné sur la presse. C'est une presse ou aux ordres ou qui fait de la surenchère par rapport au gouvernement sur la répression, etc. J'ai été en Égypte à la période sous Morsi, 90% des médias étaient contre Morsi. Aujourd'hui, tous les médias, pratiquement c'est impossible, tous les commentateurs indépendants se font virer les uns après les autres des journaux. Mais il faut voir l'origine. C'est l'origine, effectivement, c'est la décision de destituer un président démocratiquement élu par la force et d'éradiquer les frères musulmans. Les frères musulmans, on peut être d'accord, je pense que leur popularité était très basse au moment où il y a eu le coup d'État, mais ils représentent 25% de la société égyptienne. Éradiquer 25% de la société égyptienne, ça veut dire une dictature. Et qui ne s'arrêtera pas aux frères musulmans, c'est évident. C'est-à-dire, elle a commencé à toucher des syndicalistes, des jeunes de la révolution, elle va s'étendre, alors que Sissi maîtrise ou non l'appareil d'État, je pense qu'une des choses positives, c'est qu'il ne le maîtrise pas. C'est qu'on n'est pas en retour à un système complètement fermé. C'est-à-dire, s'il arrive à le prendre et à le fermer, on va retourner à l'ère Moubarak, Sadat, les mêmes choses contre lesquelles le peuple égyptien s'est révolté. Donc je crois qu'effectivement, ce qui se passe est inquiétant. Et je pense aussi qu'il y a un élément qui fait que, pour moi, ce régime n'a pas d'avenir, c'est qu'il n'a aucun projet pour la société. Nasser avait un projet pour la société. Sadat avait un vrai projet pour la société. Là, ils n'ont aucun projet, ni économique, sinon d'appliquer les plans du FMI, ni vraiment politique, c'est-à-dire à part la lutte contre le terrorisme. Il faut dire d'ailleurs que cette lutte contre le terrorisme à l'échelle mondiale est en train de devenir, y compris chez nous d'ailleurs, puisqu'on va voter en France un nouveau projet de loi antiterroriste, une manière d'attaque directe contre les libertés partout dans le monde. Et là où les libertés sont déjà faibles, ces attaques seront encore plus dangereuses.
Alors, Toufik Akhlimangdos, Sissi n'a pas de projet pour la société égyptienne. Et le terme de dictature, vous réagissez comment à ce que vient de dire Alain Grech?
Alors, je ne suis d'accord, il me permettra de n'être d'accord sur pratiquement rien, sauf sur le fait qu'aucun retour en arrière n'est possible, et qu'effectivement, là, s'il y a un projet de rétablissement de la dictature, chose dont je doute, parce que je pense qu'ici c'est moins bête qu'on le dit, il ne sera pas possible. La population égyptienne ne l'acceptera pas. Après, je me permettrai de contester les chiffres. Les frères musulmans, c'est 5,5 millions, 6 millions d'électeurs, dont je ne suis pas sûr qu'ils soient tous amoureux des frères.
Il y a des sur 86 millions
sur 50, de... non, sur 50 pardon. Millions d'électeurs, il y a 5,5 millions, 6 millions d'électeurs. Qui sont frères.
Donc vous dites moins de 25% de la population, c'est cela?
Je dis 12% de la population, au grand maximum, clients compris. Clients, c'est-à-dire des gens qui ne sont pas forcément très attachés à l'organisation. Alors après, les islamistes, c'est plus nombreux. Mais il faut voir qu'une grande partie de la population islamiste est contre les frères aussi, pour des raisons que je peux détailler. Donc je contesterai fortement le chiffre de 25%, je mettrai 10% de moins au maximum, et je me trompe peut-être. Sur l'histoire de... Il a un projet politique qui a un très gros défaut, qu'il dépend du Golfe. C'est-à-dire, dans l'ensemble, il veut...
Des monarchies du Golfe.
Des monarchies du Golfe. Son projet politique est des politiques de lutte contre la pauvreté massive dans les quartiers pauvres, couplée avec... Alors, c'est pas très clair si ce sera une politique de social-démocrate ou une politique ultra-libérale pour le reste, mais elle a commencé à être mise en route, cette lutte pour priver les frères de leur base dans les quartiers pauvres. Et le problème, c'est que ça présuppose que les monarchies du Golfe vont payer ce qu'ils ont dit qu'ils allaient faire.
Et de fait, elles ont apporté officiellement en un an 12 milliards de dollars sous forme... Voilà, alors il y avait des chiffres, même 23.
23, voilà.
C'est beaucoup.
C'est énorme. Je ne sais pas si les 23 sont arrivés, mais entre 18 et 20 sont déjà là. Et donc, il y a un projet politique nassérien avec la différence de la donne. Il peut ne pas marcher, parce qu'il ne suffit pas d'avoir l'argent. Il faut que l'appareil d'État soit capable de l'utiliser. Je ne suis pas absolument certain que Sissi soit fou amoureux des libertés publiques. Mais on ne peut pas dire qu'il n'y a pas de projet. Sur la situation dans la presse, alors là, je dirais que M. Grech, le tableau est quelque part entre ce qu'il a dit et ce que j'ai dit, et qu'effectivement, les journalistes sont extrêmement va-t-en-guerre contre les frères. Ça se comprend si on sait comment les frères les ont traités. Donc, vous ne me ferez pas dire que la couverture de la presse égyptienne est objective. J'ajouterais que personne ne veut éradiquer les frères. C'est-à-dire, il y a certainement beaucoup de gens qui seraient dans l'idée « Ah, si on pouvait se réveiller sans les voir, ce serait très bien ».
On
sait très
préciser...
bien que c'est un objectif inatteignable et donc qui ne traverse l'esprit de personne. Les faire participer aux élections législatives, je crois que le pouvoir n'a pas de problème. Le problème est leur recours systématique à la violence, qui a ses excuses aussi. Si j'étais islamiste, j'aurais recours à la violence. Je ne suis pas. Mais avoir un pied dans le processus politique et un pied dans la violence, c'est non.
Alors, on peut juste rappeler pour nos éditeurs que beaucoup de membres des Frères musulmans sont en prison depuis la destitution de Mohamed Morsi il y a un an en Égypte. Je voudrais revenir quelques instants sur l'aide étrangère de l'Arabie Saoudite, des Émirats Arabes Unis et du Koweït, dont on a dit qu'elle s'approchait de 20 milliards de dollars. Il va sans dire, Jean Marcoux, que cela se traduit aussi par un droit de regard de ces pays sur les affaires intérieures de l'Égypte ?
Oui, tout à fait. On peut se poser la question de savoir comment ce droit de regard sera perçu par la population égyptienne, parce que malgré tout, la population égyptienne a finalement des relations difficiles, une vision difficile des gens des pays du Golfe. Il y a toujours eu des relations difficiles, et donc on peut se demander comment cette dépendance va être acceptée, va être perçue par la population égyptienne, d'autant plus que je veux bien qu'on ait un projet de société financé par les pays du Golfe, mais se faire financer par ces monarchies pétrolières, là aussi ça pose un problème quant à l'indépendance de cette politique et plus généralement quant à sa sa validité. Si l'avenir de l'Égypte dans les prochaines années ne repose finalement que sur le financement de pays tiers, effectivement, on peut s'inquiéter, on peut se demander si c'est un projet véritablement viable. D'autant plus que je pense que les données de l'économie égyptienne sont extrêmement étroites, extrêmement serrées. On a bien vu les difficultés du gouvernement récentes pour essayer de relancer la machine économique, essayer de résoudre les problèmes budgétaires, quand on sait que à peu près 30% du budget égyptien est consacré à la subvention de l'essence, qui est la moins chère du monde, et à la subvention des produits de première nécessité. Si le gouvernement touche justement à ces éléments qui maintiennent la société égyptienne à flot, en tout cas la moitié de la population égyptienne qui vit avec moins de 2 dollars par jour, effectivement il court des risques sociaux qui sont extrêmement importants. Donc je crois que la situation économique est difficile, que l'Égypte est une fois de plus sous perfusion, et je me demande personnellement comment ce gouvernement va faire pour justement impulser un projet, en tout cas un projet qui ne serait financé que par les pays du Golfe, me semble un projet d'emblée très compromis.
Donc une marge de manœuvre très étroite, Alain Grèche,
oui,
pour
plus,
le maréchal Sissi.
D'autant que le discours de guerre contre le terrorisme a deux conséquences importantes, c'est qu'il n'y a pas de touristes, et il n'y en aura pas. Tant que le gouvernement dira il y a le terrorisme, et à mon avis il gonfle largement la menace, qui est essentiellement pour l'instant au Sinaï, mais bon, qui va se propager ailleurs, mais ça a des conséquences. Deuxièmement, les investisseurs du monde ne viendront pas. Et là, je pense, c'est en dehors de toute considération idéologique par rapport au régime. Et l'autre chose, c'est effectivement, moi j'étais là-bas quand le maréchal Sissi a été intronisé, et donc il a reçu des messages, et il y avait un message du roi d'Arabie Saoudite. Il a été extrêmement mal pris par les Égyptiens, y compris par des responsables que j'ai pu rencontrer, parce qu'il apparaissait comme donneur de leçons, voilà ce qu'il faut faire et faire. Et je pense que l'Égypte, qui est un grand pays, n'a pas du tout envie de se voir donner des leçons par l'Arabie Saoudite ou par les Émirats.
Alors justement, par rapport à cela et la relation avec les pays du Golfe, Toufik Akhlimondos, on a vu aussi la première visite du maréchal Sissi à l'étranger a été pour l'Algérie. Donc une volonté aussi peut-être du pouvoir égyptien de trouver une sorte d'équilibre pour contrebalancer le poids fort des pays de la péninsule arabique sur les questions intérieures égyptiennes.
Disons que l'Égypte, il y a un système, pour faire que si on parle, il y a un système de défense régionale ou de coopération régionale qui est en train de se mettre en place lentement. On ne sait pas s'il durera ou pas, s'il réussira ou pas. Et il inclut l'Algérie. Et comme le maréchal Sissi avait fait une déclaration qui a été, je crois, vraiment sortie hors contexte, mais qui avait été perçue comme très, à juste titre, vu comment elle a été présentée, à juste titre, qui avait été très mal perçue par nos amis algériens, il fallait qu'il fasse un geste et il l'a fait. Ce que M. Marco a dit, c'est tout à fait exact, sauf que ça valait aussi pour les frères musulmans. C'est-à-dire, les frères musulmans aussi dépendaient fortement
du
de
Qatar.
L'aide du Qatar et de la Turquie. Après cela, les relations entre l'Égypte et l'Arabie Saoudite, historiquement, ce sont donc deux pays qui sont alliés depuis la mort de Nasser. Et on peut dire effectivement que c'est des pays qui n'ont jamais été capables d'avoir des relations où il n'y avait pas une dimension patronage. Que ce soit un ou l'autre, ça dépend des moments qui patronnent l'autre. Après cela, ce sont nos deux alliés extrêmement étroits. Ça n'exclut pas, bien entendu, les coups de gueule. Sur la Syrie, ils ne font pas la même chose. Et c'est très loin de là, je serais plus proche de ce que fait l'Arabie Saoudite que de ce que fait le gouvernement égyptien. Donc c'est une relation étroite, mais qui n'exclut pas de solides divergences ou de non-respect des sensibilités des uns des autres. Il faut voir aussi que les Saoudiens ont aussi beaucoup de raisons de se plaindre des Égyptiens. Ça marche dans les deux sens.
Alors, pour en revenir aux questions économiques, Alain Grèche évoquait les obstacles, finalement, à la croissance avec la lutte contre le terrorisme et puis surtout les investissements étrangers qui n'affluent pas et les touristes non plus. Jean-Marc Roux, c'est dire l'étroitesse de la marge de manœuvre du maréchal Sissi. Quelques mots, et je m'adresserai aussi à vous, Toufik Akhlimondos, sur la population et ce qu'elle a à vivre aujourd'hui. On a vu donc le prix de l'essence augmenter, la mise sur pied de nouveaux impôts. Tout cela fait que le maréchal Sissi marche sur des charbons ardents, Jean-Marc Roux.
Oui, il ne faut pas oublier que l'Égypte est un pays de rente. lacérantes sont effectivement l'aide internationale des Américains, des Saoudiens, les devises qu'envoie la diaspora égyptienne travaillant à l'étranger, les fils du canal de Suez, le tourisme. Et justement, il manque une de ces rentes parce qu'on ne va pas recréer en moins de deux l'économie égyptienne. Et donc, les moyens de sortir l'Égypte de ces difficultés économiques, ça serait effectivement de relancer les investissements et bien sûr de relancer le tourisme. Et on voit bien que politiquement, la situation est bloquée. Donc, les marges de manœuvre à l'heure actuelle sont extrêmement étroites pour le gouvernement. Je dirais que la seule ouverture du gouvernement Sisi a été effectivement l'accroissement de la rente saoudienne avec tous les problèmes politiques, sociaux et géopolitiques que cela peut poser.
Toufik Aklimandos.
Encore une fois, sur les dossiers économiques, il est exact que les investisseurs ne viendront pas tant que la situation est instable, ou alors ils viendront si une politique néolibérale est vraiment appliquée et que le risque sécurité est gérable. Je crois qu'il faut distinguer entre les Émirats et l'Arabie Saoudite. C'est-à-dire que les Émirats ont au moins compris qu'il fallait plutôt regarder comment l'argent était dépensé et que ce soit plutôt des investissements qu'une aide, etc. L'Arabie Saoudite est moins regardante, elle est plus généreuse si vous voulez, sauf qu'il y a souvent aussi des retards bureaucratiques saoudiens. La situation économique, moi, à ce niveau, je défendrai ce que Sisi fait, sous toute réserve, puisqu'il commence et qu'on ne sait pas comment ça va évoluer, mais c'est le premier président, et encore une fois, je n'ai pas voté pour lui, à s'attaquer au problème de subvention. Il faut voir qu'en Égypte, le problème de la subvention, qui est vital, M. Marcou a raison de le rappeler, pour plus de la moitié de la population, le problème, c'est que la subvention de l'essence coûte à l'Égypte plus que le budget de l'éducation et de la santé réunis. Donc ça, il fallait y toucher. Et Moubarak ne l'a pas fait. Sadat a essayé de le faire et il a très vite fait marche arrière. Moubarak l'a presque pas fait. Le SCAF de M. Tantawi ne l'a pas fait. M. Morsi ne l'a pas fait. Donc le fait que s'y prennent, alors effectivement, est extrêmement dangereux pour sa popularité. Je suis parti 2 jours après que la décision a été prise, mais je m'étais promené dans le métro et j'avais vu du monde et elle a été extrêmement mal prise par tout le monde, quitte à ce que certains comprenants, etc., mais c'est le genre de décision qui vous coûte des points. Moi, ce qui m'inquiète pour lui, est que ce qui a été fait est à la fois très douloureux et insuffisant. Alors, si il refait, on a un autre round l'année prochaine de levée de subventions, ça risque de faire très mal, surtout s'il n'y a pas eu d'autres progrès entre-temps. Et s'il ne le fait pas, la situation ne s'améliorera pas vraiment et on aura l'impression d'avoir pris une raclée pour rien. C'est le dilemme des réformes quand elles sont retardées. Plus vous les retardez, plus elles sont douloureuses, plus vous êtes tenté de les arrêter à mi-course, et à mi-course, vous n'avez pas les résultats voulus. Le dossier économique est extrêmement préoccupant, mais je dirais que M. Sisi a le mérite de s'y attaquer. Après, il faudra voir si la politique de justice sociale, ce sont des mots ou des actes.
Et des informations circulent selon lesquelles l'ancien Premier ministre britannique Tony Blair aurait été embauché par les Émirats Arabes Unis pour précisément travailler une nouvelle stratégie économique en Égypte. Je termine l'émission avec cette information. Vous avez d'autres précisions peut-être, Toufik Aklimandos? En tout cas, voilà, ça circule. Je ne sais pas si c'est fondé.
Alors, il y a d'excellents économistes en Égypte et M. Sisi les a rencontrés. Le problème étant que Sisi rencontre des civils et en général, il ne leur fait pas confiance. Il retient ce qu'il veut et on ne sait pas ce qu'il retient.
Merci, c'est la fin de Géopolitique. Merci à nos invités. Jean Marcoux, directeur des relations internationales de Sciences Po Grenoble, auteur de La Nouvelle Égypte, idées reçues sur un pays en mutation, paru aux éditions Le Cavalier Bleu. Toufik Aklimandos, chercheur associé à la chaire d'histoire contemporaine du monde arabe au Collège de France, spécialiste de la vie politique égyptienne et auteur de nombreux articles sur l'armée, les frères musulmans et la politique étrangère de l'Égypte. Et Alain Grèche, journaliste au Monde Diplomatique, spécialiste du Proche-Orient et animateur du blog Nouvelle d'Orient. Vous pouvez retrouver l'émission sur le site internet de RFI, www.rfi.fr, également sur Facebook, Géopolitique, le débat, émission signée Marie-France Chatin, Véronique Durand et Nathalie Laporte avec la contribution de la documentation. Demain, Géopolitique sera consacrée à l'Asie orientale et au risque de guerre froide dans la région. À demain.